Radio Okapi.
Pour vous informer en début de ce journal, nous parlons de cette destruction d'un engin explosif le samedi au sein du marché central de Bounia par une équipe de service de déminage de la MONUSCO. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Autre nouvelle d'actualité, dans la partie ouest du pays, cette fois-ci, c'est plutôt cette bonne nouvelle avec plus ou moins 1000 assaillants. Des conflits survenus à Kwamout, Bagata et autres localités de cette zone qui se sont rendus auprès d'une commission constituée des chefs traditionnels. Et comme invité, vous suivrez Maître Omar Kavota, il est chef d'antenne du PDDSCS, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans les territoires de Béni. Il nous parle de la mise en œuvre de ce programme depuis 4 mois. Continuez à nous faire toujours confiance pour votre information de la RDC, fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. À la présentation de ce journal, Billy Ivan Lutumba. À Ituri, un sac supposé contenir un engin explosif a été détruit samedi au marché central de Bounia par une équipe de service de déminage de la MONUSCO. Cet engin se trouvait dans un sac à main abandonné par un inconnu, déclare la police de Bounia. Ce qui a permis la reprise des activités qui étaient paralysées pendant 2 jours dans une partie de ce lieu public. Cependant, une psychose s'observe encore sur place. Les marchands demandent aux services de sécurité de renforcer la surveillance au marché central pour préserver des vies humaines. Isaac Remoyope.
Une panique était observée le vendredi au marché central de Bounia suite aux rumeurs d'un engin explosif qui se trouverait dans un sac à main abandonné par un inconnu sur un étalage. De nombreux marchands ont fui en abandonnant leurs biens. Certains ont été blessés et d'autres ont perdu leurs marchandises et de l'argent. Alertés, les services de sécurité sont descendus sur le lieu pour sécuriser la zone en attendant une équipe d'experts pour identifier le contenu du sac. Selon le commandant de la police en ville de Bounia, après analyse, c'était un engin explosif de fabrication locale, lequel a été détruit samedi par les services de déminage de la MONUSCO, le colonel Abeli Mwangu.
De nos analyses faites, il s'agit probablement d'un engin artisanal de fabrication locale contenu dans un objet en plastique. Les éclats sont composés de quelques clous, morceaux de fer, fils électriques et autres matériels ont été ramassés sur le lieu par nos services. Ces objets ramassés seront remis à la police scientifique pour analyse.
Pour la MONUSCO, il est difficile de déterminer pour l'instant si c'est sac à main qui a été détruit contenait un engin explosif ou pas en attendant les résultats des études sur ses composantes. Malgré la destruction de cet engin, une psychose s'observe encore au marché. La population marchande déplore l'absence des dispositifs de détection des engins explosifs, ce qui expose plus de 10 000 personnes qui fréquentent chaque jour ces lieux publics. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Cet acte répréhensible aussi dans le Nord Kivu, un engin explosif improvisé piégé par des inconnus a été découvert samedi matin à Mbaouz, villa située à environ 25 km de la ville de Beni. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 qui confirme cette information, cet engin a été enfoui dans le sol de l'enceinte d'une école de la place. Capitaine Anthony Mwalouchaïm dit que des experts du service antimine de la MONUSCO, UNMAS, des FRDC de la police nationale congolaise arrivés sur les lieux ont réussi à évacuer l'engin en toute sécurité avant de le détruire. Tout en félicitant les habitants qui ont alerté les forces de l'ordre sur la présence de cet engin de la mort, cet officier de l'armée les invite à la vigilance. Nous restons dans la même zone Nord Kivu face aux menaces des engins explosifs improvisés dans la région de Beni. La MONUSCO appelle la population à la vigilance et à faciliter le passage à ses équipes qui se déploient sur le terrain pour sauver les vies humaines. C'était ce samedi au cours de la cérémonie d'échange de vœux hier avec des professionnels des médias de la ville de Beni. Répondant à une question sur l'appui de la MONUSCO dans la lutte contre les bombes artisanales, le chef de bureau adjoint de la MONUSCO, Beni Butembo et Lubero, Abdourahmane Ganda, a exhorté la population à faciliter la tâche aux équipes de la MONUSCO qui interviennent sur le terrain. Il invite également les journalistes à faire large diffusion de la campagne des luttes contre les engins explosifs improvisés que la MONUSCO a lancée. Abdourahmane Ganda est au micro de André Kiting.
Je voudrais en profiter pour lancer un appel à la population. 2 appels. Le premier, selon les informations que nous avons reçues et que nous avons partagées, qui étaient déjà en possession des autorités, il y a d'autres bombes qui sont en circulation. Et comme vous l'avez remarqué, même ce matin, à Mbao, à l'entrée d'une école, vous vous rendez compte, à l'entrée d'une école. Donc, nous appelons la population à la vigilance. Il y a des objets, quand on les voit, évitez de les toucher. On a lancé une campagne, faites-en une large diffusion. La 2e chose, nos équipes se déploient dans des situations extrêmement difficile et urgente. Facilitez-leur le passage. C'est pour sauver des vies. La dernière fois, elles étaient parties à ma campagne. Au retour, il y a des gens qui les ont caillassées. Ce sont des gens qui prennent beaucoup de risques pour sauver d'autres vies. Quand vous les voyez, s'il vous plaît, facilitez-leur le passage. C'est pour sauver la vie de nos frères et sœurs.
8 calme sur toutes les lignes des différents fronts dans les territoires des Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Les sources concordantes dans ces territoires affirment qu'aucune détonation d'armes lourdes ni des coups de feu n'ont été entendus jusqu'à ce dimanche matin de part et d'autre dans les zones de combat. Les mêmes sources indiquent que les belligérants maintiennent chacun ses positions dans les espaces déjà conquis dans ces territoires. Cependant, toutes les notabilités contactées dans les zones sous contrôle de la rébellion déplorent l'aggravation de la situation humanitaire et socio-économique dans les espaces conquis par la rébellion sans donner d'autres détails. Toujours dans le Nord Kivu, la radio communautaire pour la paix des Bachali RCPB, émettant à partir de la cité de Kichanga dans le territoire de Masisi, a été pillée systématiquement hier par le M23. Selon son directeur, les rebelles ont tout emporté, 8 batteries, 10 panneaux solaires, un convertisseur, un générateur, 3 ordinateurs, 2 imprimantes et une dizaine de chaises. Cette radio couvrait toute la chefferie de Bachali dans le Masisi, une partie du territoire des Rutshuru. C'est une dotation du PNUD en 2019. De leur côté, les organisations humanitaires nationales et internationales se disent justement préoccupées par la situation des milliers de personnes en danger dans le Nord Kivu en raison des violences. Selon un communiqué de presse parvenu à Radio Okapi au cours des derniers jours, plusieurs personnes ont été prises dans l'étau des violences armées dans les localités de Kichanga, territoire de Masisi, Kishishe, territoire des Rutshuru et les leurs environs dans la province du Nord Kivu, les obligeant ainsi à fuir leur domicile. Pour en savoir davantage, Jeff Ngoy.
Plusieurs personnes menacées par des individus armés ont trouvé refuge dans et autour d'une base de la MONUSCO à Kichanga. Les récentes violences nous rappellent une fois de plus l'importance de protéger les civils et les infrastructures civiles, déclare Bruno Lomarki, coordonnateur humanitaire en RDC. La poursuite des menaces qui pèsent sur la population restreint considérablement à la fois la capacité de la population civile à se déplacer pour échapper à la violence ainsi que la capacité des organisations humanitaires à accéder aux personnes vivant à Kichanga et dans les localités voisines. J'appelle donc toutes les parties au conflit à épargner à la population concernée les souffrances causées par les violences et leur demande de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire en permettant à la population de se déplacer en toute sécurité et sans restriction jusqu'à ce que le calme revienne à Kichanga, poursuit-il. En attendant, l'accès à l'assistance humanitaire reste primordial pour sauver des vies. À cet effet, le rôle des autorités congolaises est essentiel pour garantir l'acheminement et le déroulement des opérations humanitaires, peut-on ainsi noter.
Parlons à présent de cet acheminement d'un premier lot d'assistance humanitaire dans le territoire des Rutshuru par le programme alimentaire mondial PAM. Selon les sources concordantes contactées à Rutshuru, un convoi de 5 véhicules, dont 3 gros camions de cette agence des Nations Unies chargée essentiellement des vivres, est arrivé jeudi dernier à Kiwanja en provenance de Goma. Les sources locales affirment sans préciser le tonnage que cette cargaison d'aliments était principalement constituée de farine, du riz, du lait et d'autres nutriments supplémentaires en faveur des enfants malnutris. Ces enfants, dont les statistiques ne sont pas connues, sont pris en charge dans les différentes structures médicales à Kiwanja, Rutshuru Centre et Tamugenga, indiquent nos sources. À préciser que les personnes de troisième âge figurent aussi parmi la catégorie des bénéficiaires de cette assistance. Insécurité dans le territoire de Kwamoto, Maïndombe, à ces jours, plus de 1000 assaillants armés se sont déjà rendus à la commission de pacification du Grand Bandundu que conduit le roi mini-Congo Fabrice Kavabioko. La dite commission effectue depuis quelques mois la mission de paix dans ce territoire avec une délégation des chefs coutumiers Teke et Yaka, deux communautés en conflit depuis juin 2022, conflit ayant occasionné plus de 200 morts. D'après le chef de la délégation, au jour d'aujourd'hui, la paix est restaurée à au moins 75% dans le Kwamoto. Irène Boma nous en parle.
En mission de pacification dans les territoires de Kwamont au Maïndombe, les grands chefs coutumiers Soukou, les rois mini-Congo, qui conduit la commission composée des chefs coutumiers Teke et Yaka, dépêchés selon lui par les chefs de l'État, a séjourné jeudi à Bandundu, chef-lieu du Kwilu, pour se rendre personnellement compte de la situation des déplacés accueillis dans cette ville. À l'occasion, il a fait savoir que cela fait plus de 4 mois que lui et sa délégation sont dans la forêt à Kwamont pour sensibiliser les assaillants appelés mobiles. Kondo, auteur des violences qui ont éclaté dans cette partie du pays. Il affirme qu'à ce jour, plus de 1000 assaillants se sont déjà rendus auprès de la commission. Avant de venir ici, j'ai été en forêt pour sortir nos enfants qui s'étaient enfouis dans la forêt pour commettre ces atrocités. Déjà, la paix est rétablie à 75% dans les territoires de Kwamont. J'ai déjà sorti plusieurs assaillants de la forêt et ils ont remis des armes. Pour l'instant, déjà plus de 1000 assaillants sont sortis. Ceux qui sont restés, on se bat pour les faire sortir également. Pour sa part, Martin Souta, vice-président de la société civile de Kwamont, confirme que les affrontements ont cessé, mais il y a encore l'insécurité. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'intersyndicale de la Société congolaise de transport et port dénonce la léthargie dans l'exécution des décisions du Conseil des ministres allant dans le sens de booster cette entreprise commerciale. Il s'agit entre autres de la décision du 15 janvier dernier relative à la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Dans une déclaration à la presse samedi à Kinshasa, le président de l'intersyndicale de l'ex-Sonatra a déploré le blocage des moyens financiers pour effectivement appliquer le programme d'urgence de relance de la SCTP. Armand Ossassé déplore en même temps un manque à gagner pour l'État congolais, actionnaire unique de la Société congolaise de transport et port, qui emploie 25 000 agents dans 17 provinces de la RDC. Ces propos ont été recueillis par Paul Matendo.
Lors de la 82e et puis 83e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État donnait des instructions vraiment sanitaires. La reprise des trafics ferroviaires Kinshasa-Matadi, et aussi la relance pour la société. Et il avait donné des instructions aux deux membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres des Transports et Voies de Communication et les ministres des Finances. Côté ministre des Transports, il y a des avancées vraiment significatives. Mais il y a blocage, léthargie au niveau du ministre des Finances et ça nous inquiète. Pour que tout soit effectif, il faut les moyens. Les moyens, c'est notre créance de 2,7 millions. Malgré les décisions du chef de l'État, il y a la léthargie au niveau du ministre des Finances. Alors que les décisions du Conseil des ministres sont des décisions exécutoires. La faillite de la SCTP, c'est aussi une perte énorme pour l'État congolais. La SCTP fait face à une concurrence imposée parce que les ports privés aujourd'hui nous mettent dans une situation de casier et d'exploitation. Il y a une forte déviation des navires dans les ports privés.
Sachez que cette déclaration intervient après une mission d'inspection de l'état des ports et du chemin de fer du ministre des Transports et Voies des Communications dans le Congo central, dans le cadre du projet de reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi et Matadi-Kinshasa. La société Plantation et Huilerie du Congo, PHC, a présenté le bilan de sa production 2022 au cours d'une soirée de gala organisée à Kinshasa le samedi. Pour la directrice générale Monique Jeskes, l'entreprise a franchi la barre des 60 000 tonnes d'huile de palme en 2022, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à l'année 2021. Pour cette performance, 28 agents des catégories différentes ont été primés par la société. On écoute l'extrait du discours de Monique Jeskes, choisi par Richard Junior Kamung.
En regardant tous les changements ainsi que les transformations opérées au cours de l'année 2022, nous ne pouvons qu'exprimer notre fierté envers le personnel de l'entreprise et ses partenaires. En 2022, PHC a franchi la barre de 60 000 tonnes d'huile produite. En 2020, pour rappel, les réalisations en termes de volume d'huile produite était de 42 000 tonnes. En 2021, nous avons atteint les 50 000 tonnes. En 2022, nous avons atteint donc les 60 000 tonnes. Ceci représente un accroissement en termes de l'huile produite depuis 2020 de 42% de croissance et en régime récolté de plus de 34% de croissance. Et PHC ne s'arrête pas là. Les plantations et huileries du Congo ont l'ambition de produire 100 000 tonnes d'huile d'ici 2026. Cette incroyable réalisation ne serait pas possible sans la contribution de chacun de nos employés, mais également sans le soutien des communautés et des parties prenantes.
Pour en savoir assez sur cette entreprise, sachez qu'elle a été créée en 1911. La société a connu trois appellations dans son parcours. Huilerie du Congo belge, ACB, à sa création, puis plantation Les Verts au Zaïre, PLZ, après l'indépendance et depuis 1997, PHC au Kassai et dans le Kwilu. La société Plantation et Huilerie du Congo dispose actuellement des trois sites d'exploitation à Lokutu dans la province de la Tchopo, Yalingimba dans la Mongala et Boteka dans la province de l'Équateur.
Actualité internationale.
Le pape François a cherché samedi à consoler le peuple du sud de Soudan, encourageant les prêtres et les religieuses à servir leur ouaille en les accompagnant. Après les autorités et la société civile, la veille, François a rencontré le personnel de l'église, puis des Sud-Soudanais qui ont été contraints de quitter leur foyer en raison des combats, des inondations et d'autres crises.
L'invité.
C'est le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans le territoire de Béni. Il s'appelle Maître Omar Kavotai. Il parle des activités de ce programme depuis son lancement il y a 4 mois. Comment évolue ce processus et quels sont les défis à relever dans cette région? Maître Omar Kavotai s'entretient avec André Kitenge.
Maître Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
4 mois depuis que vous avez été installé ici à Béni, comment évolue le processus de PDDRCS ici à Béniville et Béni Territoire?
Il est vrai que nous avons été nommés par décision du coordonnateur national du PDDRCS depuis le 1er octobre de l'année 2022. Nous nous sommes mis au travail sur instruction du coordonnateur national du programme. Et dans le premier temps, nous avons travaillé sur notre plan d'action stratégique. C'est ce plan d'action qui ajoutait au plan d'action d'autres territoires constitue ce que nous appelons le plan opérationnel provincial. Mais au-delà de ce plan d'action sur lequel nous avons travaillé au niveau de l'antenne pour que nous puissions apporter de notre propre vision en rapport avec les défis de notre zone dans les POP, nous avons travaillé sur une sensibilisation de la communauté dans le cadre de former les différentes couches de la population sur les fondamentaux du programme. Mais comme vous le savez, la principale activité quant à la communauté au vu des défis qui sont les nôtres dans notre zone, c'est le désarmement et la démobilisation. Et nous attendons que les DD, c'est-à-dire les désarmements et la démobilisation, soient formellement lancés par l'autorité du programme en collaboration avec le ministère de la Défense. Et il est possible que tout cela soit réalisé au cours déjà de ce mois de février pour que les combattants qui traînent encore les pieds et qui attendent que nous puissions les accueillir viennent.
Vous voulez dire que rien n'a été fait encore jusque-là avec les différents groupes armés?
Alors, nous disons que nous ne les avons pas encore appelés à venir parce que nous devrions préparer les cadres. Et à notre niveau, ce cadre, la préparation du cadre d'accueil est presque terminée. Mais comme c'est l'autorité nationale et l'autorité du programme qui doivent lancer formellement le go, nous attendons donc ce moment et je crois que c'est une affaire des jours pour que nous puissions appeler formellement le groupe qui attendent impatiemment à venir. Nous voudrions que effectivement ces groupes viennent pour le désarmement et la démobilisation avant que nous puissions les réinsérer dans les communautés, étant donné que notre programme a une approche communautaire.
Quels sont les défis à relever dans le Grand Nord, notamment où il y a beaucoup de groupes armés qui écument la région, mais aussi les priorités de votre action sur terrain?
En termes de défis, c'est que nous pouvons noter que le programme a traîné un peu parce que l'attente est exprimée de manière grande. Il y a déjà des groupes armés qui annoncent leur intention, leur désir de venir rejoindre le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Malheureusement, c'est comme si c'est à notre niveau que nous traînons pour que ces gens puissent venir. Donc ça, c'est un défi, mais un défi qui est déjà relevé parce que au niveau de notre coordination, les moyens sont déjà disponibles, ils n'attendent que donner le go pour que tous ces groupes armés viennent. Et notre défi résulte aussi de ce qui a été observé comme pourparlers à Nairobi.
C'est quel message lancez-vous aux différents groupes armés par rapport à ce processus de PDDRCS?
Nous disons que le PDDRCS, c'est le programme de la communauté pour stabiliser cette zone. Nous voudrions donc que toutes les couches de la population, tous les groupes armés s'approprient ces programmes de manière à contribuer au retour de la paix, de la sécurité dans cette zone. Nous savons que nombreux d'entre ces groupes ont attendu, mais l'heure est déjà venue et nous allons donc nous employer à pouvoir les accueillir et nous pensons que au-delà des efforts militaires qui sont consentis, le PDDRCS, s'il est accepté par la communauté, par les groupes armés, peut arriver à contribuer efficacement au retour de la paix, au retour de la restauration de l'autorité de l'État et de la stabilisation de notre milieu.
Maître Omar Kavota, je vous remercie.
Merci à Radio Okapi.
À vous, auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci. Ce journal vous a été préparé par Noël Alouzi. Tout Mimi qui nous doit assurer la prise des soins et la mise en onde. Et Billy Yvan Lotumba vous l'a présenté.